Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Le bandeau rouge qui entoure le livre ne ment pas. Il présente le roman comme la rencontre inoubliable de deux parias au cœur de la forêt canadienne. Et c'est vrai que tout le livre est construit pour expliquer les circonstances de cette rencontre, inoubliable mais aussi improbable et donc formidablement romanesque, entre Anna, une fille d'immigrés japonais, et Jack, un ermite un peu chaman, élevé par une amérindienne. Avec un troisième personnage, l'ours, un pont entre deux mondes, une créature à mi-chemin, ni d'ici ni d'ailleurs, entre la réalité du monde et les légendes, car ce qui relie ces deux personnages, c'est avant tout la force des mots, des récits, des histoires transmises d'une génération à l'autre, et ce don incroyable de comprendre, grâce à la nature, ce qui échappe aux autres hommes. Les Mangeurs de Nuit, le nouveau roman de Marie Charelle, est paru aux éditions de l'Observatoire, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Marie Charelle.
Bonjour.
Avant de faire découvrir à nos auditeurs ces deux magnifiques personnages que sont Jack et Anna, quelques mots sur le troisième personnage. On va parler de l'ours aussi, mais un autre personnage un peu plus singulier qui est la nature, qui est tout simplement cette forêt de Colombie-Britannique dans l'ouest du Canada. Pourquoi avez-vous décidé de situer votre récit à cet endroit ?
Alors, il y a beaucoup de raisons, beaucoup de chemins qui m'ont amené vers cette forêt. Il fallait que ce livre parle d'arbres et de forêts d'une façon ou d'une autre. Et pourquoi la Colombie-Britannique ? C'est le hasard d'un documentaire un soir sur Arte, comme quoi Arte, source d'inspiration sans cesse renouvelée, sur les compteurs de saumon de Colombie-Britannique. Et en particulier le dernier compteur de saumon de Colombie-Britannique. Et il y avait ces images de cet homme qui remontait les fleuves, qui était dans cette forêt pluviale assez incroyable, très particulière, avec tous ces mythes. Et c'était là. Il fallait que ce soit cette forêt-là plutôt qu'une forêt européenne, qui était mon premier choix. Et finalement, voilà, j'ai sauté l'océan.
Alors, vous êtes allé sur place ? Vous êtes immergé dans ces paysages absolument fabuleux qui peuplent votre récit ?
Alors, j'ai pas pu y aller en partie parce que c'était une écriture pendant les confinements divers et variés que nous avons connus ces dernières années. Et c'est pas plus mal parce que l'idée pour moi, c'était vraiment de faire vivre cette forêt avec toutes les images, toute la puissance mythique, le rêve, l'imaginaire. Donc finalement, de pas y aller, de m'immerger quand même parce qu'il y a beaucoup de sources documentaires sur cette forêt, en allant dans d'autres forêts qui évidemment sont différentes, mais sur le ressenti qu'on peut avoir quand on est en contact avec les arbres. Voilà, donc j'y suis pas allée et je rêve d'y aller plus tard pour voir si ça colle. En tout cas, ce serait un beau voyage d'y aller maintenant.
Et ben c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors, il y a la terre et l'eau, il y a les rivières qui traversent la région. Vous parliez il y a un instant des compteurs de saumon. En anglais, ça se dit creek walkers, qui signifie littéralement marcheur de ruisseau. Et c'est précisément la profession, le métier de Jack. Jack, il vit en contact avec les éléments, il vit en contact avec la nature. Et donc, il veille sur les ressources de saumon. En fait, il travaille pour l'administration.
Exactement, c'est assez surprenant, surtout quand on sait qu'aujourd'hui ça existe encore, il en reste très peu. L'idée c'est de compter les saumons, littéralement, avec des petits compteurs, en remontant certains ruisseaux pour voir s'ils reviennent frayés, combien ils sont à peu près. Et en fait, c'est grâce à ça qu'après, l'administration fédérale du Canada établit les quotas de pêche.
Donc c'est pour éviter la surpêche, pour éviter que des espèces ne disparaissent.
Exactement, ça paraît assez artisanal comme méthode, mais c'est comme ça que ça a été fait pendant des décennies et c'est un boulot assez fascinant qui peut pas être mécanisé pour le coup, même si je pense que maintenant il y a aussi des drones qui doivent pouvoir contribuer à ça, mais voilà, un métier de rêve, mais pas si facile parce qu'il pleut beaucoup dans ce coin-là et c'est très physique.
Voilà, il met énormément de plaisir, j'allais presque dire de foi dans ce métier. Jack, Marie Charelle, il vit d'ailleurs avec cette nature qu'il a appris à respecter surtout. Il sent les éléments, il y a un vrai côté chaman. D'ailleurs, dans le premier chapitre, rien qu'en se promenant dans la nature, il sent, on ne sait pas trop si c'est le terrain, l'air, les odeurs, mais il sent qu'il va se passer quelque chose de grave.
Il est connecté à cette forêt où il a grandi, où il a vécu toute sa vie, et donc il sent il entend la musique de la forêt, il entend ses variations, il entend quand quelque chose change, quand quelque chose la perturbe. Il est vraiment fusionnel avec son élément, quoi. Et il pressent que voilà, quelque chose va... Est-ce que c'est un pressentiment? Est-ce que c'est très concret parce que les animaux, les bruissements, tout ça, avec son instinct d'homme et presque animal, quoi, lui souffle des choses.
Ça me fait penser à ces animaux qui sentent l'approche d'un cyclone, par exemple, ou d'un tremblement de terre.
C'est ça, mais le fait de vivre plongé dans cet environnement fait qu'il y est profondément connecté, qu'il sent ce genre de choses.
Il est connecté aux animaux sauvages, et puis il vit seul au cœur de la forêt avec deux chiens, qui s'appellent Buck et Astrée. Vous n'avez pas choisi les noms complètement au hasard, j'imagine, Marie-Charles.
Je pense que les références à Buck, assez...
Jack London, l'appel de la forêt, évidemment.
Exactement.
Alors Astrée, c'est peut-être moins connu. Astrée, c'est la bergère de René Durfee, quoi. Elle est aussi, c'est un personnage très, très connecté aussi à la nature et aux mythes, aux légendes.
Tout à fait. Et puis les étoiles, et voilà. Ouais, c'était pas au hasard.
C'était pas au hasard. Alors Jack, on le disait, il aime ses chiens, il aime son métier. D'ailleurs, on pourrait presque dire qu'il a plus de respect et plus de confiance dans les animaux et dans la nature tout court que dans la nature humaine.
Absolument. C'est plutôt un misanthrope. Et en effet, la nature, il ne faut pas l'idéaliser excessivement. Il y a des dangers, il y a de la brutalité. Mais finalement, c'est plus direct et plus clair que la brutalité des hommes, quoi. Lui, c'est vraiment la façon dont il vit les choses. Il préfère se confronter à cette dureté-là qu'à celle des hommes, qui est plus perverse.
Ouais, il a des relations compliquées avec les mauvais garçons qui ont grandi avec lui dans la même région, des jumeaux qui portent une force, une violence vis-à-vis des hommes, mais aussi vis-à-vis de la nature en eux. Et pourtant, à la veille de sa mort, le père de Jack lui a dit une phrase très importante. Il lui a donné une sorte de conseil. Il lui a dit, je cite, « Tu devras aimer tous les hommes, car il y a du bon en chacun d'eux ». Il n'est pas complètement fidèle à la parole de son père, alors, au début du roman, Marie-Charles.
Non, c'est vrai. Il a une vision du monde peut-être un peu plus manichéenne, quoi. Il a acheté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire la nature humaine. Il a choisi de voir sa face obscure et de la fuir, et peut-être d'oublier que parfois, tout est un petit peu plus gris que noir et blanc, et que parfois, les hommes font des choses affreuses parce qu'ils y sont poussés, ou parce qu'ils n'ont pas le choix, ou parce qu'ils ne savent pas exprimer... ce qui t'empête en eux autrement que par la violence, quoi.
Alors, on ne sait pas exactement au début du roman pour quelles raisons il a décidé de prendre de la distance par rapport au monde. On sait qu'il déteste la ville, qu'il déteste le monde, que de temps en temps, il part se ravitailler dans l'épicerie du village, qui est tenue par une dame qui s'appelle Beth. Mais c'est à peu près tout. On sait aussi qu'il a deux surnoms. Le taiseux, donc par rapport à tout ce qu'on vient de dire, personne ne sera réellement surpris. Et puis l'Indien blanc. Alors l'Indien blanc, Marie-Charles, ça mérite quelques explications.
Parce qu'il a, il a grandi avec son père, on va refaire sa généalogie. Donc son père est un Canadien blanc d'origine européenne, sa mère, on ne sait pas grand-chose sur elle, mais son père, c'est remarié, entre guillemets, avec une Amérindienne qui a élevé Jack.
Hélène.
Et c'est sa mère, de fait, de cœur et de vie. Et donc, il a grandi avec elle. Il a pris toute sa culture aussi, ainsi que celle de son demi-frère. Donc, c'est pour ça qu'il est assimilé... localement, on le regarde plutôt comme un Amérindien que comme un bûcheron local... Classique.
Alors le demi-frère, lui, pour le coup, est un métis, hein, donc un être de sang mêlé, comme vous l'écrivez. Il s'appelle Marc. Alors il n'est pas là. Hein. On sait qu'il est parti. On ne sait pas trop au début du livre pour quelle raison. Petit à petit, on s'en rend compte. On sait aussi que Marc n'a pas donné de nouvelles à sa famille. Donc ni Jack ni Hélène ne savent ce qu'il est devenu. On sent qu'il y a une vraie fêlure là. On sent que le poids de l'absence est très fort. Et de temps en temps, Jack se souvient. Nous sommes à la page 109 de votre roman.
Ils étaient tous les trois, désormais. Trois solitudes soudées par l'amour et la perte. Lui, Hélène et Marc, son petit frère né 4 ans après lui. Une Amérindienne et 2 gosses. L'un blanc, l'autre métis. Il resterait ici, dans la maison des Hautes Terres. C'était sans doute mieux. Le reste du monde n'avait aucune importance. Hélène leur apprendrait à lire et tout ce qu'il y avait à savoir pour subsister sans dépendre de personne. comment cultiver, pêcher, chasser. Prends uniquement ce dont tu as besoin et ne jette rien. Trouve une utilité à chaque chose. Comment cueillir ? Toutes les baies sont comestibles, mais en manger trop donne la courante. Se soigner, l'écorce de cèdre pour la fièvre, le champignon noir pour cicatriser. Elle leur enseignerait comment saler le saumon pour le conserver durant tout l'hiver. Comment tanner les peaux, rapiécer les vêtements. Elle leur apprendrait à écouter. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Ralentis jusqu'à la caler sur le rythme de la forêt. Écoutez, au tout début, les deux garçons ne comprenaient pas de quoi elle parlait. Ils essayèrent encore et encore, sans succès, pendant des mois. Jusqu'au jour où ils n'eurent plus besoin de fermer les yeux pour sentir la forêt battre en eux, comme un second cœur. Alors, ils entendirent les griffes de l'ours raclant l'écorce d'un épicéa centenaire, l'eau des glaciers dévalant les pierres mouchetées de lichen, le plongeon du louveteau découvrant la rivière, le combat entre deux mulots pour une pomme de pin, le craquement discret de la branche réceptionnant le bond de l'écureuil, le crépitement du bourgeon prêt à jaillir. Ces sons les emplirent. Les deux enfants vibraient. Ils étaient ancrés à la terre et libres comme le vent. Le soir, pour nourrir leurs rêves des images anciennes, Hélène leur narrait les contes Tsimshian de son enfance.
Et parmi ces contes Tsimshian, ces contes des peuples autochtones de la Colombie-Britannique, Marie Charelle, il y en a un qui a peut-être plus d'importance que d'autres pour Jack et son frère Mark, c'est l'histoire de Petit Aigle et Aigle Seul. On peut dire que c'est une sorte de métaphore de leur existence, en tout cas comme ça qu'ils l'ont compris.
C'est exactement comme ça qu'ils l'ont, qu'ils l'ont compris et qu'ils l'ont vécu, et ça fait partie des histoires qui ont un peu aussi structuré leur relation sans forcément qu'ils le verbalisent.
Alors c'est une histoire parmi d'autres, parce que votre récit est vraiment parsemé de ces légendes indiennes. Alors parfois ce sont des chapitres entiers écrits en italique, parfois ils se retrouvent dans le corps du texte, notamment à travers des dialogues. Et il y en a une qui concerne un ours pas tout à fait comme les autres, on en parle dans un instant. Sur RFI avec Marie Charelle pour son roman Les Mangeurs de Nuit aux éditions de l'Observatoire, et la rencontre proprement dite entre vos deux personnages est racontée à la charnière entre la première et la deuxième partie du roman. Jack trouve Anna inanimée et blessée par un ours. L'ours qui, je le disais, se trouve au cœur d'une des légendes indiennes que vous nous contez. Nous sommes maintenant à la page 85.
Un jour, désirant rompre la solitude à laquelle le royaume de neige le condamnait, le corbeau créa la nuit. À la lumière solaire succéderait désormais l'obscurité. aussi sombre que les plumes d'ébène enveloppant le corps de l'oiseau. Puis celui-ci créa les couleurs, le bleu de l'océan, le vert des forêts, le jaune du pollen, le rose des pétales de fleurs, le rouge du sang coulant dans les veines des bêtes à qui il prêta son souffle, une à une. Loups, baleines, poissons, insectes, fauves, aigles, singes et bientôt les hommes. Il offrit à ses créations le pouvoir de donner la vie à leur tour, puis il se retira dans les cieux afin d'observer son œuvre. Désormais, la terre était crépitement et joie, fertilité et fête. Tout en elle palpitait et jaillissait, s'élevait et fleurissait, se déployait et se reproduisait. Tout aspirait à exister, se répandre, gagner sa place. Le corbeau était fier de l'abondance féconde qu'il avait engendrée. Mais une part de lui était malgré tout habitée par la nostalgie du monde blanc. Le silence d'opale lui manquait, son harmonie. Alors, il convoqua l'ours noir et lui proposa un marché. Jamais il ne connaîtrait de malheur ou de menace. Toujours, il vivrait dans la sérénité, à condition qu'il accepta que l'un des siens naisse de temps à autre avec un pelage blanc, aussi immaculé que les premières neiges de l'hiver. L'ours accepta son offre. Ainsi, le créateur penserait à son ancien royaume d'ivoire chaque fois qu'il poserait les yeux sur le spécimen blanc. Celui-ci serait un animal à part, une créature d'ici et d'ailleurs, de l'entre-deux, capable d'apercevoir les hommes saumons, les âmes errantes et les anges étranges échappant aux règles du temps. Il serait l'ours esprit, celui que des siècles plus tard, les Tsimshian appelleraient le Mokezgmol.
Alors cette légende, Marie Charelle, elle sort de votre imagination ou bien c'est une légende qui existe réellement auprès des Amérindiens de cette région ?
Elle existe réellement et c'est aussi un documentaire qui me l'a fait découvrir sur Arte.
Décidément, vous êtes
décidément, je ne suis
extrêmement
pas
fidèle
par
à la chaîne culturelle franco-allemande.
Mais oui, bah du coup, j'ai eu un moment de consommation frénétique de tout ouvrage, documentaire, article sur la Colombie-Britannique et très vite on tombe sur cette histoire d'ours esprit, pardon. Qui existe donc dans cette forêt pluviale de Colombie-Britannique, il y a un ours blanc, mais qui n'est pas un ours blanc comme ceux qu'on trouve dans le Grand Nord, puisque c'est génétiquement un ours noir, mais il y a une anomalie génétique qui fait que 1 sur 10 à peu près naît blanc. Et donc les peuples autochtones l'ont inclus dans leur légende, parce que c'est vrai que c'est très étrange, et l'ont... Il fallait trouver une explication à cet ours. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il continue d'organiser des voyages pour ceux qui peuvent essayer d'aller rencontrer cet ours esprit mystérieux qui remonte les fleuves et mange les saumons. Et c'est vrai qu'il est enveloppé de mystères. On entend cru qu'il n'existait pas. Si, il est bien là. Il y en a très, très peu, évidemment. Voilà, donc c'était... J'ai eu envie de le mettre dans cette histoire parce que c'était...
Ah mais non seulement vous l'avez mis dans l'histoire, mais c'est vraiment le personnage charnière, quoi. C'est le personnage qui permet finalement à votre récit d'exister. Pourquoi est-ce que vous lui avez donné une telle importance? C'est-à-dire que l'ours, il est partout d'une certaine façon dans le roman.
Parce que l'ours est une figure extrêmement mythique, mythologique, même en Europe, partout. Je crois qu'il n'y a pas un pays où il n'y a pas... une légende ou une figure très très forte autour de l'ours pour beaucoup de raisons, parce que de certaines façons il ressemble à l'homme. Il y a Michel Pastoureau qui a écrit un livre sur l'ours, donc j'avais tout aussi ces histoires d'ours que j'avais envie de
mais
mettre.
C'est pas un animal comme les autres.
C'est pas un animal comme les autres. Et il y a même cet ouvrage incroyable de Anastasia Martin où elle parle de sa rencontre avec un ours aussi dans le Grand Nord, où elle aussi a une expérience. Donc, au moment où j'imaginais cette scène, j'ai lu son ouvrage, donc j'étais vraiment dans une phase un peu chamanique moi-même, et je me suis dit, voilà, c'est un signe, c'est que l'histoire doit bien commencer avec un ours de cette façon, et c'est un animal qui va permettre à Anna de franchir certaines portes et qui va surtout permettre cette rencontre.
À votre connaissance, Marie Charelle, est-ce que la transmission orale est toujours vivace parmi les Amérindiens de Colombie-Britannique? Les récits que l'on trouve dans le livre, les légendes, on continue de les raconter, de se les transmettre de génération en génération?
Oui, bien sûr. Ça continuent, ils les cultivent, ils font en sorte de maintenir ça vivant. Ils ont ce lien très fort avec la nature toujours. Développent un peu l'économie locale autour de ça. Un peu de tourisme notamment. Voilà.
Donc, la légende, le récit reste aussi aujourd'hui encore, malgré la modernité, un élément structurant de la culture et de la vie en société.
Oui, il y a même un regain autour de ça, de vraiment garder ce patrimoine oral et éventuellement de le mettre par l'écrit, le transmettre, d'en parler, bien sûr.
Otomi-san par le Club Nissei Orchestra dans VMDN sur RFI avec Marie Charelle qui publie son nouveau roman Les Mangeurs de Nuit aux éditions de l'Observatoire. Club Nissei Orchestra. Nissei, c'est un mot japonais qui désigne la deuxième génération des émigrés japonais, les enfants des premiers émigrants japonais nés à l'étranger et en particulier donc au Canada, dans cette Colombie-Britannique où vous situez l'action du roman. Et votre personnage Anna en fait partie de ces Nissei. Marie Charelle, alors le lecteur le découvre assez vite, mais un petit peu comme un jeu de piste au début, puisque au début du roman, il y a un homme, un inconnu qui s'approche de la maison dans laquelle Anna se trouve. Alors c'est vaguement inquiétant, il y a un vrai suspense sur la nature de cet homme. Est-ce qu'il est ou non une menace pour Anna? En plus, Anna est seule, alors elle se cache à l'intérieur, elle se tait, elle ose à peine respirer, l'homme n'insiste pas. Et puis, il y laisse un petit mot et une photo d'une femme en kimono. Comment avez-vous eu l'idée d'entamer votre récit en ouvrant cette porte-ci, de l'entamer en quelque sorte par une image?
Il y a, je pense, un biais de déformation professionnelle qui fait que j'accorde beaucoup d'importance, et je trouve que les photos ont beaucoup d'importance et soulèvent parfois beaucoup d'émotions à la fois collectivement, quand on pense aux grandes photos de photojournalisme qui marquent l'histoire comme ça, et personnellement parce que c'est la mémoire des familles. Parfois on n'a qu'une photo, ça dit beaucoup de choses ou ça cache beaucoup de choses, et il y avait plein de façons possibles d'introduire Anna, mais elle, on la rencontre à un moment de sa vie où tout ça est loin derrière. Elle a refait sa vie en Colombie-Britannique, elle est devenue un peu ermite comme Jack, elle vit seule, et cette photo là était une façon de la ramener à ce passé, en particulier au passé de sa mère, parce qu'elle n'a pas connu le Japon, et de la renvoyer à cette histoire-là qu'elle a mis derrière elle, quoi, de la replonger et de replonger le lecteur avec elle dans cette histoire compliquée.
Alors, une histoire qui n'est pas très très connue, hein. Je pense qu'il y a peu de gens qui, aujourd'hui, en dehors du Japon et peut-être du Canada, connaissent l'histoire de ces migrants japonais. Pourquoi ont-ils quitté le Japon, ces migrants ? Je parle de la première génération, hein, donc singulièrement de Daika, qui est la mère d'Anna.
Beaucoup pour des raisons économiques au début c'était beaucoup des hommes.
Après la Première Guerre mondiale, hein, historiquement parlant, dans le roman en tout cas, 1926 je crois.
C'est ça, et ça a commencé bien avant, plutôt à la fin du 19e, beaucoup des hommes qui se sont concentrés au Colombie-Britannique puisque géographiquement c'est là qu'ils arrivaient.
Voilà, on traverse le Pacifique, on part du Japon et puis on arrive vers le Canada ou les États-Unis.
Exactement. Et ils travaillaient beaucoup dans les industries locales de la pêche, du bois. Ils étaient très concentrés là. À un moment, l'immigration a été limitée des hommes. On les a autorisés en revanche à faire venir des femmes pour peut-être équilibrer un petit peu la communauté. Et ces femmes sont arrivées beaucoup par photo.
Voilà. D'ailleurs, donc la mère d'Anna, donc qui s'appelait Aika, elle quitte le Japon, je le disais, en 1926, et c'était une picture bride. Alors là aussi, vous nous expliquez, une mariée par photo.
C'est ça, on revient à l'importance des photos, les mariés presque sur catalogue, on pourrait dire, oui. Puisque pour rencontrer ces femmes, pour créer ces couples, en fait, ils s'échangeaient des photos, ça passait beaucoup par les familles, c'était des mariages arrangés.
Donc quand elle part, Aika, donc la mère d'Anna, elle ne connaît pas du tout son futur mari.
Comme la quasi-totalité d'entre elles, à part des échanges de lettres et des photos qui étaient plus ou moins récentes, plus ou moins mises en scène. Donc il y avait parfois souvent des surprises et c'était pas forcément l'Eldorado rêvé. C'était aussi une forme de rêve américain, aller rencontrer ces maris japonais qui avaient fait fortune en Amérique du Nord, et certains n'avaient pas fait tant que sa fortune, n'étaient pas si jeunes, pas si beaux. Que sur les photos,
voilà,
et que
dans les rêves. L'arrivée est parfois douloureuse, il faut effectivement se confronter à une réalité qu'on n'a pas forcément prévue. Et puisque vous évoquiez l'importance des photos, Marie-Charles, est-ce que vous pouvez nous décrire et nous commenter la photo qui se trouve en couverture de votre livre ? Parce qu'elle fait directement référence justement à cette migration-là et à ces fameuses picture brides.
Ah, c'est cette photo, on est toujours très très ému d'avoir pu l'obtenir pour cette couverture, et je profite pour remercier les éditions de l'Observatoire qui se sont démenées pour l'avoir, puisque c'est une photo de Dorothea Lange, cette grande photographe qui a pu elle-même aller plonger dans ces camps. Alors là, c'était aux États-Unis, au moment où pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais ont été internés de force dans des camps, les Japonais qui vivaient donc en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, parce qu'on avait peur d'eux, on avait peur que certains soient des espions à la solde de Tokyo. Et puis, par mesure de précaution, on va dire, les Américains et les Canadiens les ont regroupés dans des camps de façon assez brutale.
Oui, parce qu'on en parle assez peu, en tout cas en France, mais c'est vrai qu'ils ont été victimes, ces Japonais du Canada, d'une véritable ségrégation, hein, d'un racisme au quotidien très difficile à endurer. En fait, on les a dans un premier temps considérés qu'ils étaient un peu les responsables de la crise économique, quoi. C'est assez, la crise économique des années 30 en particulier, quoi. C'est assez classique. On choisit le bouc émissaire, et le bouc émissaire idéal, c'est forcément l'étranger, celui qui n'est pas comme soi.
C'est ça, avec quelque chose d'assez injuste, parce qu'il y avait aussi beaucoup de Chinois à l'époque au Canada, mais qui étaient très diffusés sur tout le territoire, alors que les Japonais étaient très très concentrés sur la côte de Colombie-Britannique. Donc il y a eu des bouffées de racisme concentrées sur cette communauté en particulier, et des meutes parce qu'ils étaient nombreux au même endroit, avec les clichés habituels sur les étrangers qui viennent envahir, qui font beaucoup d'enfants et qui vont se propager. Donc il y a eu déjà des bouffées de racisme.
Oui, avec des lois aussi parfois, hein, pour les empêcher d'accéder à certains emplois, par
C'était
exemple.
C'était des citoyens de seconde zone, quoi.
Voilà,
donc compris ceux nés dans le pays.
Voilà, et après Pearl Harbor, et donc après le moment historique où les États-Unis et leurs alliés canadiens rejoignent le second conflit mondial, c'est évidemment beaucoup plus dur pour eux. Ils sont considérés comme des traîtres, ils sont internés dans des camps, ils meurent parfois de faim et de froid. C'est un climat évidemment particulièrement rude, hein, parce que celui de la Colombie-Britannique en particulier en hiver. Et pourtant, eh bien, ces Japonais-là, ils ont accepté leur sort, quoi. Ils ont courbé les chines, il n'y a pas eu de révolte. comme ça a été le cas dans la communauté afro-américaine, par exemple. Il n'y a pas eu ce ressentiment-là, cette mobilisation, visiblement.
C'est évidemment toujours difficile à expliquer, mais dans les témoignages qu'on a, beaucoup disent... déjà, certains étaient convaincus qu'en étant respectueux des nouvelles lois, même s'ils étaient à leur encontre, ils prouveraient qu'ils étaient des bons citoyens, puisque voilà, ils obéissaient à la loi, conformément à tout bon citoyen. D'autres disent, finalement, c'était un peu dans la culture nippone aussi, quoi, d'obéir comme on obéissait à l'empereur. Enfin, voilà, ce côté bon petit soldat, on fait pas de bruit, on obéit, et puis tout se passera bien, quoi. Et à ce propos, je ne peux pas ne pas mentionner l'ouvrage de Julie Otsuka, certaines n'avaient jamais vu La mer, qui est un merveilleux roman qui parle aussi de toute cette période-là, côté américain, un roman choral très très fort, évidemment, auquel je pensais en écrivant ça, parce que c'était, je pense, par elle qu'on a vraiment découvert cette histoire-là, en France en tout cas. C'est un bouquin incroyable aussi. Si ce sujet vous intéresse, faut absolument le lire. Il est en plus d'une poésie folle, quoi.
Nouvel extrait cette fois-ci de votre livre, c'est le dernier. Nous sommes à la page 116 du roman.
Les Nisei dépassent leurs parents d'une tête. Ils rient fort en montrant leurs dents. Ils sèchent les cours pour aller au cinéma. Ils ont honte des emplois subalternes réservés à leur communauté et rêvent de liberté. Ils refusent de baisser les bras. Ils ne s'écrasent pas. Ils sont nés au Canada, après tout. Ils sont ici chez eux. Leurs aînés se fourvoient. À l'évidence, ce n'est pas en courbant les chines qu'ils seront enfin considérés comme des citoyens à part entière, mais en réclamant leurs droits. Ils aspirent à ressembler aux Canadiens de souche et sont en colère contre ceux qui les considèrent comme des étrangers, qui les malmènent au quotidien, à l'école, dans la rue, au marché. Ils sont en colère contre eux-mêmes, car au fond, ils ne savent pas qui ils sont. Ils aiment ce pays qui les rejette. Ils n'ont aucune affection pour l'île qui a vu naître leurs parents. Les Nisei sont la génération déchirée.
Moi, quand j'ai lu ce passage, Marie Charelle, je me suis dit qu'au fond, même si les circonstances historiques sont différentes, au fond, ce que vivent ces Nisei et leur façon de regarder le pays qui a accueilli leurs parents, eh bien, beaucoup d'immigrés ou de gens issus de l'immigration dans le monde entier, et en particulier en France, doivent ressentir exactement la même chose. Il y a une dimension presque universelle, finalement, dans le destin de ces Nisei.
Exactement, et c'est vraiment ce qui m'a frappé en lisant tous les témoignages de ces jeunes nés dans ce pays qui faisaient des études, qui accédaient à l'université, puis qui n'arrivaient pas à trouver des emplois à la mesure de leur diplôme, et qui étaient déchirés entre ces parents un peu enfermés dans leur communauté parfois, et ce pays qui était le leur et qui les renvoyait à cette étrangeté, cette externalité, ce statut d'étranger qui ne considère pas. Et c'est vrai que ce déchirement-là, je pense, parle forcément à beaucoup, beaucoup de personnes avec probablement une dimension universelle.
Ouais, on a reçu effectivement beaucoup d'invités, romanciers, romancières ou autres qui nous ont parlé justement de ce ressenti-là. Alors, c'est pas facile pour Anna, c'est clair, mais ça a été encore moins facile pour sa mère, pour Aïka, qui, elle, va connaître une vie extrêmement malheureuse. Elle n'a pas le même ressort que sa fille, quoi. Elle n'arrive pas à s'intégrer, son mariage n'est pas heureux, même la naissance d'Anna va rien changer, on ne peut vraiment pas dire que ça va s'améliorer pour elle après. On a presque l'impression qu'Aïka est maudite, quoi, qu'elle est née pour souffrir, qu'elle est née pour être malheureuse, Marie-Charles.
C'est vrai qu'en tout cas, tout le début de sa vie, c'est encaisser cette déception déjà du départ, parce qu'elle part, parce que sa famille l'envoie... sa famille au Japon est ruinée et l'envoie dans l'idée qu'elle échappe à ça et qu'elle trouve un meilleur mari, meilleure fortune. Or, ce n'est pas le cas. Donc, elle est déçue. Elle se demande si sa famille savait et qu'il l'avait envoyé tout, en sachant ce qu'il attendait vraiment. Elle aime pas cet homme qui n'est pas celui de la photo puisqu'il est plus âgé.
Il s'appelle Kuma.
Il a perdu de l'argent. C'est un doux rêveur. Elle voulait pas un rêveur. Elle voulait un entrepreneur qui la mette à l'abri. Alors, elle arrive, il la met au boulot. C'est pas tout à fait ce pourquoi elle avait signé. Et elle garde ses rêves et fort et cette frustration. Et finalement, elle en veut à sa fille d'être l'enfant de cet homme qu'elle n'arrive pas à aimer. Alors, c'est pas un mauvais bougre, mais voilà, c'est pas...
Alors non, c'est pas un mauvais bougre. Et même, on peut dire que la relation entre cet homme qui s'appelle donc Kuma et la petite Anna, c'est vraiment une très très belle relation. Et c'est lui qui va lui parler de ces mangeurs de nuit qui donnent donc leur nom à votre roman, Marie Chérelle. Alors on peut raconter quand même brièvement de quoi s'agit-il, ces mangeurs de nuit.
Kuma, c'est un rêveur et un poète qui invente des histoires, qui est très pris aussi par les légendes de son pays et qui, quand il arrive, quand sa nouvelle épouse arrive, il pense la charmer en lui racontant ses histoires à lui, en lui disant « Mais tu sais, ici, les lucioles sont plus petites que chez nous, mais il y en a aussi. » Et puis... Et puis elle t'attendait, elle se nourrissent de beauté, et en attendant de se nourrir des brumes de beauté que tu allais lui offrir, elle mange, elle dévore la nuit. Donc voilà, c'est toute sa poésie que son épouse, elle ne prend ça comme du baratin, et ça ne plaît pas. Mais par contre, sa fille, elle est réceptive à ça, parce qu'elle grandit, pour le coup, au Canada, dans la forêt, et elle voit ça, cette beauté-là, que sa mère ne... prend pas parce qu'elle est prise dans des contraintes matérielles et de survie qui font qu'elle n'arrive pas à être réceptive à ça.
Voilà, donc les mangeurs de nuit, c'est lucioles qui sont de la lumière dans la nuit au sens propre comme au sens figuré, quoi. C'est aussi une métaphore de l'espoir, de pouvoir voir effectivement ce qui peut être sauvé dans une situation très, très compliquée. Et un peu plus tard, Anna va dire à Jack, même beaucoup plus tard, je cite la phrase qui est dans le roman à la page 190, « Les histoires, mon père affirmait qu'elles sont les filles du vent, pareilles à de petites fées vivant dans l'immensité du ciel, perdues jusqu'à ce qu'elles rencontrent un conteur disposé à les libérer par ses mots. » La phrase est absolument magnifique et je tenais vraiment à la citer. Et forcément, quand on vous lit, Marie Chérelle, on pense à vous aussi, on pense à la romancière que vous êtes, puisque votre... j'allais dire travail, votre fonction comme c'est l'est, enfin en tout cas votre activité, enfin je ne sais pas comment on doit dire, mais votre raison d'être d'une certaine façon en tant que romancière et écrivaine, c'est justement de libérer les histoires par les mots. Donc c'est exactement ce que dit la phrase d'Anna que je viens de citer. Vous aussi, vous croyez dans cette force incroyable des récits?
Ah oui, c'est une certitude. Je pense que les mots, les histoires sauvent. Ceux qui les écrivent, ceux qui les lisent, c'est probablement le meilleur remède à la noirceur du monde, à laquelle il est parfois difficile d'échapper, sauf par l'imaginaire, par les récits. C'est un très très bon remède à beaucoup de choses. Et puis c'est aussi une ouverture sur le monde. C'est comme ça qu'on apprend sur les autres, je pense beaucoup par les livres, qu'on se plonge dans l'altérité, qu'on va explorer des choses qu'on n'explorerait pas... ou différemment à travers les films ou la musique. En tout cas, je crois beaucoup au pouvoir des histoires. Je pense que ça ouvre l'esprit et ça contribue à la...
Donc les histoires peuvent changer la vision du monde. Elles peuvent aussi changer le monde. C'est une sacrée responsabilité quand même pour un écrivain.
Changer le monde, peut-être pas changer la vision du monde. En tout cas, peut-être aider à sortir parfois de ses propres idées reçues, ou peut-être être un peu moins manichéen sur le monde. C'est déjà pas mal de réussir à faire ça par les livres. En tout cas, moi, en tant que lectrice, c'est le sentiment que j'ai parfois de découvrir une culture, un pays, un bout d'histoire, et me dire, tiens, c'est toujours un petit peu plus compliqué que ce qu'on pense, et c'est jamais complètement noir ou blanc, et d'essayer de trouver cette nuance-là... quand on arrive à toucher ça en tant que lecteur, c'est merveilleux.
Et en tant que lectrice, justement, quels sont les livres justement qui ont bouleversé, changé ou en tout cas donné une inflexion particulière à votre vision du monde ?
Ah, il y en a tellement, c'est difficile d'en citer quelques-uns. Autant des romans que des essais. Et là, je vais sortir des choses absolument... pas original.
Non, mais allez-y, attendez, pas besoin d'être original. Ce qui compte, c'est d'être sincère.
Dans les livres qui m'ont bouleversé, qui m'ont sauvé, vraiment, je pense qu'il y a le mythe de Sisyphe de Camus, qui a vraiment été un livre fondateur pour moi, qui m'a aidé justement à sortir de cette vision tout est noir, donc qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on se suicide ? Ben, non. Justement, qu'est-ce qu'on va trouver comme beauté pour se sauver soi-même et quand même. Survivre au monde. Donc ça, c'est un des essais qui m'a aussi donné envie de continuer à chercher ça dans mes lectures, quoi, si je devais en citer qu'un. Après, sur les romans, pour faire le lien avec celui-ci, il y a l'arbre-monde de Richard Powers, qui, moi, a été une révélation incroyable. De dire, c'était un livre sur les armes, donc c'est pour ça que c'est pas un hasard,
oui.
Sur, avec un incroyable nombre de niveaux de lecture, 13 personnages principaux, il me semble, tout est connecté, ils sont connectés entre eux, c'est connecté aux armes, c'est connecté à l'histoire de un nombre... voilà, donc ça fait partie des livres où je me suis dit, on peut faire ça, c'est possible, on vous dit, il faut pas trop de personnages, il faut pas trop d'histoires... Et si, il fait ça et il fait L'Arbre Monde, c'est le titre dit ce qu'est le livre. Quoi. Donc c'est vrai qu'autant que lectrice comme en tant qu'autrice, c'est très inspirant de se dire on peut faire ça.
Ouais, c'est ce que vous avez fait à travers ce livre, Marie Charel, même s'il y a peut-être moins de personnages quand même que voilà. Mais est-ce que lorsque vous avez terminé l'écriture de ce livre, lorsque vous avez mis le point final à votre manuscrit, vous êtes dit là justement ma vision du monde a changé, cette histoire-là. Avant de changer celui des lecteurs, elle a peut-être changé mon monde à moi aussi.
C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est chaque fois aussi un prétexte à l'aventure pour moi. C'est de me dire, c'est comme si je trouvais un petit caillou par terre. Bah là, c'était un petit tiens ces histoires de conteurs de saumons, tiens cette histoire d'ours. Qu'est-ce que je peux, comment je peux creuser ça? Alors ça m'amène à lire tous les livres sur la mythologie des ours, sur la Colombie-Britannique, sur les Nisei. C'est presque enfantin comme. Il faut que je me remplisse de toutes ces histoires. C'est vraiment une curiosité enfantine, quoi, et très joyeuse de « Oh, il y a ça !» Et puis, au fil des découvertes, j'ai découvert, par exemple, ce personnage qui a réellement existé, qui est dans le livre de cette immigrée japonaise qui a tenu une maison close en contrant toutes les lois de ce que pouvait faire une femme à l'époque ou pas. Donc, je me dis « Tiens, il y a une femme qui a fait ça, on va la mettre dans le roman comme personnage très, très secondaire. » Mais voilà, c'est vraiment de la joie et de la découverte, quoi. Et puis parfois des choses que je mets pas dans le livre mais qui m'ont enrichi. On peut faire ça sans avoir écrit des livres, mais moi c'est une façon de m'emmener vers des univers auxquels je ne serais pas allée aussi.
Voilà, plaisir de lire et plaisir d'écrire. Merci beaucoup Marie Charel. Les Mangeurs de nuit, roman passionnant et remarquablement écrit, paru aux éditions de l'Observatoire.
Another long night in my long life. I'd been kicked another down. No, the cowgirls think I'm crazy. In standing in line to buy myself a drink. Well, I thought I had my fill, but the great mystery knows how your story goes. And sometimes you live.
Over You, Raymond Sewell, un chanteur amérindien qui nous emmène de l'autre côté du Canada, au Québec, cette fois où la nation des Hurons-Wendats, qui fait partie des premiers peuples à avoir habité l'Amérique du Nord, mise actuellement sur la technologie, un parcours immersif pour raconter son histoire et sa culture, près de la ville de Québec, dans une forêt, là aussi non loin du village où habite ce peuple, Onwa Lumina met en scène les mythes de la création, l'importance des animaux et la transmission des savoirs, on est vraiment pas loin des mangeurs de nuit, le tout grâce à des projets projections vidéo, des installations lumineuses et sonores, une réalisation de l'entreprise spécialisée Moment Factory que Pascal Guéricola a parcouru pour nous. Et vous savez quoi ? Il va aussi être question de Luciole. Reportage.
Papa, est-ce que c'est notre lune ? Est-ce que c'est la lune d'ici ou là-bas ?
Ce petit garçon a beaucoup de questions en contemplant une côte enneigée illuminée par la pleine lune. Au fil des projections, cette portion de la forêt se transforme en rivière déchaînée, en dos de tortue ou en prairie parsemée de fleurs colorées. Les images changeantes posées sur de vrais éléments comme la neige, les rochers, les troncs d'arbres évoquent plus qu'elles ne racontent la création du monde selon les Hurons-Wendat. Une volonté délibérée d'un des concepteurs d'Onoa Lumina, Steve Grolouis.
Mais moi, ce que je voulais éviter, c'est que les gens se promènent et qu'ils aient leur cellulaire toujours à la main. J'aime penser que les gens se laissent bercer par notre musique, par nos chants, par les images qui sont projetées, par les magnifiques couleurs qui sont projetées à travers la forêt. Et par la suite, avec le code QR, puissent s'informer et dire « Ah! » Finalement, la palissade, c'était ça. On voit le troc entre chacune des communautés. On voit qu'ils partent en guerre.
Face à une palissade qui autrefois protégeait les villages Hurons-Wendat, les spectateurs découvrent des bribes de l'histoire de ce peuple qui vivait dans des maisons longues et faisait pousser des légumes. Sept tableaux à découvrir au sein d'une forêt en mouvement lèvent le voile sur la culture de cette nation autochtone. La neige craque sous les pas d'un couple qui contemple une danse endiablée de points lumineux entre les troncs d'arbres.
C'est peut-être un ciel étoilé, hein? On pourrait dire ça. Ou un nuage de lucioles en plein hiver, ça doit être plutôt rare.
Ah, des lucioles l'hiver.
Ouais. C'est des points lumineux de différentes couleurs, des couleurs chaudes, des couleurs froides. Une petite chorégraphie circulaire. On est toujours dans le cercle, hein, dans la thématique Huron.
Peu à peu, un chant traditionnel s'élève dans le bois, porté par un des derniers Hurons à parler cette langue au début du 20e siècle. Et par des jeunes Hurons-Wendat d'aujourd'hui. Les explications de Steve Grolouis.
Et avec les nouvelles technologies, on a l'impression qu'ils chantent en duo, mais il y a 140 quelques années qui diffèrent le temps de ces chanteurs-là. Et donc, on ne pouvait pas se permettre ça autrefois. Et maintenant, on peut le faire. Vous avez Prosper Vincent qui commence dans le sentier à bercer ce chant-là. Vous entendez tranquillement les filles entrer et à la fin, ils sont en duo de concert. C'est incroyable. Avec la technologie d'aujourd'hui, la modernité de ce qu'on a aujourd'hui, pouvons-nous raconter notre histoire?
Ce lien technologique entre les Hurons-Wendat du passé et du présent constitue le point central du parcours immersif d'Onoa, qui signifie « maintenant ». Un pied de nez à l'histoire pour affirmer que ce peuple demeure vivant et renoue avec ses racines, même s'il a manqué disparaître et être emporté par l'assimilation.
Reportage de Pascal Guéricola pour RFI. Dans un instant, le journal, on se retrouve demain avec Fabien Vincent pour son roman Staline a bu la mer aux éditions One Carrière qui nous emmènera cette fois-ci du côté de la mer d'Aral. À demain donc et vous m'en direz des nouvelles.
Tous les jours, accent.